S'agissant du premier intérêt qui réside dans l'actualité pour les Hautes-Pyrénées, cette actualité s'explique parce que notre département des Hautes-Pyrénées a été affecté par les dernières réformes territoriales, puisque ses compétences ont été réduites et ses moyens aussi. Également, notre région, Midi-Pyrénées, feu Midi-Pyrénées, a été fusionné avec la région Languedoc-Roussillon pour le former, vous le savez, notre unique maintenant et grande région dénommée Occitanie, dont les compétences ont été renforcées et les moyens aussi ont été renforcés. Également, nos communes et nos communautés de communes dans le département des Hautes-Pyrénées ont été fusionnées et plus précisément, dès le 1er janvier 2017, il y aura une communauté d'agglomération XXL, pour l'instant qui est dénommée Tarbes-Haussin-Lourdes, et dont le périmètre s'étendra sur la moitié du territoire de notre département des Hautes-Pyrénées. Donc il me semble important, dans notre département, de pouvoir mettre à la disposition de tous les habitants, qui sont à la fois citoyens et contribuables, les informations concernant ces collectivités, puisque ça touche à notre quotidien. Hein. Les collectivités organisent nos services publics. S'agissant du deuxième intérêt, il réside dans son originalité par rapport à toutes les publications qui ont pu être publiées précédemment. Non seulement il est à jour, c'est-à-dire qu'il est actualisé par rapport aux précédentes publications, mais surtout, il a une double particularité. La première, c'est que les auteurs de cet ouvrage ont décortiqué tous les rapports officiels qui ont été rédigés sur les collectivités territoriales, mais également les débats parlementaires, les textes de loi qui se sont étalés entre 1976 et 2016. Donc, ils décortiquent plus de 30 ans de documents. Et c'est grâce à cette études sur le long terme, hein, une génération puisqu'on est sur 30 ans, que l'on peut avoir des éléments d'information plus importants, plus complets. Donc non seulement il décortique plus de 30 ans de documents, mais également il confronte ce qui était marqué dans ses rapports ou dans ses lois, c'est-à-dire ce qui est prévu, le texte, avec la réalité. Quelle est véritablement la pratique des réformes? Et c'est grâce à cette analyse d'un cadre juridique, plus ou moins théorique, et la confrontation avec la pratique, que l'on a pu découvrir à la fois les enjeux et les obstacles, qui sont officiels, c'est-à-dire ceux qui sont dits, mais également ceux qui sont officieux, non dits, tels que le cumul des mandats, par exemple. Alors, cet ouvrage, il a à la fois une approche juridique, historique et critique. Et c'est en ça, à mon avis, qui constitue le gage d'une vision globale et objective. Puisque, me semble-t-il, hein, c'est à la lumière de notre passé que l'on peut expliquer notre présent. Et c'est notre présent qui va déterminer notre avenir. Ceci d'ailleurs me permet de faire la transition avec le troisième intérêt de cet ouvrage, qui est celui de son utilité pour comprendre et expliquer toutes les réformes des collectivités territoriales qui ont déjà été réalisées, mais également les résultats qui sont escomptés. Alors par exemple, il va traiter cet ouvrage de la réalité des régions, ces nouvelles régions qui ne sont que des colosses au pied d'argile en fin de compte. Également, il s'intéresse à la destinée des départements. Les départements vont-ils être maintenus après 2020? Et notamment, est-ce qu'ils exerceront toujours cette compétence en matière sociale? Il traite aussi de la question des schémas départementaux de coopération intercommunale. Quelle est leur portée? Également, il s'intéresse à la complexité de la répartition des compétences entre communes, départements, régions, mais aussi avec les intercommunalités. Et bien entendu, cet ouvrage traite aussi d'épineuses questions. La réalité de la démocratie locale, la fragilité des finances locales, la mobilité des agents publics territoriaux, que vont devenir ces agents de nos communes qui sont et des intercommunalités qui sont fusionnées, bien sûr, dans des intercommunalités encore plus grandes. La question également des territoires ruraux est posée, puisqu'on s'intéresse aussi dans un article à la pérennité des territoires ruraux. Alors, je peux lire peut-être juste deux petits passages. J'aimerais notamment vous lire dans la préface rédigée par Jean-Marie Pontier, qui est un éminent professeur de l'université d'Aix-Marseille, quelques phrases assez intéressantes par rapport à des débats qui ont pu avoir lieu précédemment. Ce professeur de droit public, spécialiste des collectivités, écrit cela, je lis. Les élus locaux ne peuvent voir qu'avec circonspection, voire avec hostilité, cette recomposition territoriale dans laquelle ils ont du mal à se retrouver et avec laquelle ils ne sont guère d'accord. Est-ce là seulement l'expression de l'opposition de personnes attachées à défendre des intérêts locaux et partiels face à un État qui, seul, défendrait l'intérêt général ? On ne peut qu'éprouver quelques réticences à aller dans ce sens. Tant cette présomption dont bénéficiait traditionnellement l'État et que nous enseignons en droit administratif paraît aujourd'hui fortement ébranlée. Pour simple illustration, les chiffres de seuil que l'on trouve dans la loi, par exemple dans la loi NOTRe, pour la constitution d'EPCI à fiscalité propre, s'apparentent davantage à des marchandages entre les deux chambres qu'au résultat d'une réflexion rationnellement conduite. Où est passé l'intérêt général dans tout cela ? Voyez, en fait, cet auteur, il ne se prononce pas à partir d'arguments de droite ou de gauche. Ce n'est pas un raisonnement politique. Il critique d'un point de vue objectif la rationalité des seuils qui ont été retenus. Également, ce qui est intéressant, toujours dans cette préface, c'est toujours à la page 18, il écrit... L'une des expressions de cette complexification est la différenciation inévitable et souhaitable des règles imposées par les écarts de développement des territoires. C'est là où cela devient intéressant à mon sens. Donc, je continue la lecture. L'opposition entre le monde urbain et le monde rural existe certes depuis longtemps. Et entre parenthèses, il souligne, c'est le rat des villes et le rat des champs. Il referme la parenthèse, mais elle s'est considérablement accentuée avec l'exode rural qu'a connu notre pays depuis plus d'un demi-siècle et qu'il continue de connaître. La désertification qui frappe les campagnes s'accompagne de la suppression progressive d'un certain nombre de services publics traditionnels, de la disparition de certaines professions, entre parenthèses, médecins, dit-il, écrit-il, et des commerces. Donc vous voyez, cette analyse qui a été écrite par un professeur de droit, actuellement à la retraite, il est professeur émérite de l'université Aix-Marseille, en fait, pointe des sujets sur lesquels on a pu, nous, discuter précédemment, qui est, par exemple, l'avenir de l'hôpital public sur Lourdes, etc. Et juste pour terminer, là, je voudrais vous lire un passage d'Hélène Polia, qui est professeure, qui était jusqu'à présent la présidente de l'université de Limoges, donc très connue comme... experte des collectivités territoriales, et qui écrit dans sa conclusion, c'est page 296, « L'État ne doit pas être le pilote du désordre. Les réorganisations territoriales, les recompositions territoriales apportent des bouleversements importants dans les administrations locales. Ces bouleversements sont acceptables si ces évolutions majeures reposent sur une stratégie d'ensemble. Or, bien souvent, les pouvoirs publics semblent procéder de manière pragmatique et un peu au cas par cas. Il est important que progressivement se soit imposée l'idée que tous les territoires ne pouvaient être gérés selon un monde unique. En ce sens, la réorganisation est bienvenue. Mais fallait-il recomposer de manière aussi uniforme ? Toute région devant être imposante par sa taille et son étendue ? Point d'interrogation. Les recompositions tendent à décomposer les unités dans un premier temps et cette période est indiscutablement propice à un réinvestissement du champ par l'État. Elles doivent ensuite laisser la place à une décentralisation plus forte, plus dynamique, plus originale, peut-être, et ne pas constituer d'obstacles supplémentaires à l'émergence d'une réelle démocratie citoyenne. Vous voyez, je n'ai pris que deux extraits, enfin trois extraits précisément, de deux articles ici, mais dans tous les articles, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que ces universitaires posent des questions qui parfois fâchent, et qui ne s'intéressent pas uniquement à se demander qu'est-ce qu'il va y avoir dans le court terme. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans, et qu'est-ce que, en fonction de ce qui avait été prévu, il va arriver. Parce qu'on peut prédire des résultats, des réformes, parce que quand on compare ce qui s'est déjà passé, on a vu ce qui avait pu être réalisé. Donc, me semble-t-il, cet ouvrage permettra à ceux qui s'intéressent aux collectivités territoriales de comprendre et d'expliquer, et ainsi d'avoir un jugement qui soit éclairé. Alors, je souhaitais profiter de cette conférence de presse, au-delà de cette présentation de l'ouvrage, pour annoncer et inviter toutes les personnes désireuses, bien entendu, toutes les personnes intéressées, à une séance de dédicace de cet ouvrage collectif qui aura lieu le samedi 10 septembre 2016, entre 10h et 12h, à l'espace culturel Édouard Leclerc, donc à Lourdes, en face des Halles de Lourdes. Et à cette occasion, bien sûr, ça sera avec plaisir que je discuterai avec tous ceux qui le voudront des différents sujets traités dans cet ouvrage.